Bonjour, le Centre interculturel de documentation Originante a organisé en novembre 2013 un temps fort pour célébrer 30 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme. L'occasion pour nous de nous installer salle du sémaphore à Nantes, l'occasion de retrouver autour de nos micros, avec la complicité de Géraldine Lamant, Adèle Momedja, doctorante en sociologie, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, et Ali Rebou, à l'époque adjoint en charge de la vie associative, aujourd'hui adjoint au sport, ville de Nantes. Vous êtes à la fois issu de la société civile et puis vous êtes passé de l'autre côté.
L'autre côté, c'est un mot qui est un peu dur parfois. J'ai l'impression que j'ai trahi.
C'est pas ce que je veux dire, mais.
Non, mais c'est une autre forme d'engagement. J'interprète comme ça en tous les cas.
Vous aviez quel âge ?
Moi, j'étais pas née.
Moi, j'avais 13 ans à l'époque.
Ça représentait quoi, la marche ? Rien du tout, parce que vous étiez pas née ?
Non, mais par contre, ensuite, en faisant mes études de sociologie, j'en ai entendu parler pendant un cours, et là, je me suis dit, rien qui a été fait, on m'en a jamais parlé pendant mes cours, on m'en a jamais parlé à l'école. Du coup, je me suis interrogée là-dessus, je me suis dit, c'est problématique qu'un événement qui avait l'air important comme ça à l'époque, on n'en parle pas, quoi.
Alors, moi, ça m'a marqué en tant que, d'abord, citoyen, en tant que fils d'immigré aussi. C'est vrai que j'avais 13 ans, mais ça m'a marqué parce que c'était la première fois qu'on donnait une visibilité dans l'espace médiatique à ce type, entre guillemets, de population. Et là, c'était particulier parce que c'était sur une revendication, sur une marche. Et au même moment, je me souviens aussi, et puis le film nous le rappelle bien, il y avait eu pas mal de crimes racistes. On était dans un climat en France qui était difficile. Et en tant que fils d'immigré, c'était important qu'on puisse vraiment rendre visible cette marche et ses revendications. Donc moi, ça m'a vraiment marqué.
Comment on explique qu'au fond, c'était une fenêtre historique et que c'est un peu replongé dans l'anonymat ?
Alors moi, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus pour ma thèse. Et là, tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a... c'est peut-être lié à ce fameux film là, qui est assez médiatisé, mais il y a une résurgence de l'intérêt pour la marche qui est assez intéressant. Et c'est le genre de choses qu'il faut évidemment analyser. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'intéresse à un événement ? Qu'est-ce qui favorise le ressurgissement de la mémoire d'un événement, etc. Alors bien sûr, la situation des quartiers populaires aujourd'hui invite à reconsidérer cette époque où... Alors en plus, il y a une forme de nostalgie, il me semble, des années 80, comme une période peut-être, avec des jeunes plutôt sympathiques. Il y a aussi ce côté-là, hein, les marcheurs, ces gens sympathiques, alors qu'aujourd'hui, voilà, la question de l'islam qui est très présente, des gens qui sont accusés d'être des islamistes, etc. Du coup, il y a un contraste. En général, c'est assez mis en contraste entre aujourd'hui et l'époque.
Alors moi, je pense qu'il y a d'abord les 30 ans, c'est quand même symbolique, ces 30 ans, mais il y a toujours...
Il y a eu 20 ans,
ça, on en a beaucoup moins parlé, c'était en 2003. Mais entre-temps, il y a quand même eu ce qu'on a connu, c'est-à-dire en 2005, hein, les violences urbaines, même si on était sur des revendications qui étaient complètement différentes, où là, en 83, on marchait pour l'égalité et contre le racisme. En 2005, c'est plutôt... dire une insurrection entre guillemets des habitants des quartiers. Mais pour moi, je lis ces deux phénomènes qui sont pour moi des phénomènes politiques où on retrouve quasiment des points communs, même si entre 83 et 2005, je suis d'accord avec vous, les quartiers ont évolué sociologiquement. En 83, on ne parlait pas de la question d'islam qui remonte en 2005. Donc on voit quand même que les mêmes ressorts produisent, j'ai envie de dire, quasiment les mêmes effets. Et qu'aujourd'hui, même en étant un peu critique, je trouve qu'on a même parfois régressé sur certains aspects où on a quand même affaire à des gens qui sont français aujourd'hui hein, et qui se considèrent même pas français et qui peuvent être déconsidérés encore plus qu'on l'était en 83. Moi, je pense que mes parents, en tant qu'immigrés, qui n'étaient pas français mais qui étaient arrivés, vivaient mieux leur vie en France qu'aujourd'hui certains jeunes qui se sentent vraiment exclus, d'où une crise identitaire. Et je trouve vraiment qu'on a à ce niveau-là régressé. Alors, il y a des choses qui ont avancé sur d'autres aspects, on pourra en parler aussi après. Mais je pense qu'on a les mêmes ressorts qu'on avait en 83.
L'intitulé de votre intervention, la marche comme vecteur ou révélateur du militantisme beurre, avec un point d'interrogation.
Ce que j'ai essayé de dire quand j'ai intervenu, donc c'est un terme qui a été aujourd'hui qui est complètement rejeté, hein, qui est rejeté par les gens. À l'époque, il était quand même un peu moins. Ce qui est toujours intéressant de se demander, c'est ce que j'ai essayé de me demander, c'est quoi un beurre? À partir de quand on arrête d'être un beurre? Est-ce qu'à 40 ans, à 45 ans, on est encore un beurre? Ou est-ce qu'on est... il y a un moment où on n'est plus un enfant d'immigré, on n'est plus un beurre. Est-ce qu'il faut avoir la nationalité française pour être un beurre? Est-ce qu'il faut être né sur le territoire? C'est très difficile de définir les termes et de savoir exactement ce que ça veut dire. D'autant plus qu'un mot... à un sens, assigne des gens à une identité, donc c'est pas rien de dire à quelqu'un « vous êtes un jeune issu de l'immigration », si par exemple je vous dis « vous êtes un politicien issu de l'immigration », pour moi tout de suite je vous assigne à une identité qui est forte, c'est pas rien quoi. Que les gens ensuite se réapproprient les termes, c'est autre chose. C'est une autre question.
Mais la réappropriation amène aussi des glissements de sens.
Des
glissements de sens dans le langage. Donc, quel mot vous pourriez, vous, qu'est-ce qui pourrait remplacer le mot « beurre » aujourd'hui pour vous?
Mais est-ce qu'il y a besoin de...
Alors déjà, c'est très intéressant la question que vous posez. C'est qu'en fait, ça n'a jamais fait débat. Est-ce qu'on a besoin de nommer ça? Voilà. C'est une question qui faisait très peu débat. Et donc le fait que vous la posiez, c'est intéressant que vous ne réfléchissiez pas dans les cases, parce que c'était pas un enjeu de savoir s'il fallait donner un nom. Est-ce qu'il faut parler des jeunes issus de l'immigration? Alors il y a des gens qui disent si, il faut en parler, parce que si on ne parle pas, si on ne donne pas un nom, on ne reconnaît pas les discriminations, le racisme, etc. Si on refuse de parler, de donner un nom.
Mais c'est parce que vous avez utilisé ce mot-là précisément, donc c'est pour ça que je demandais.
Ouais, mais non, mais du coup, c'est intéressant aussi de demander ça, et je pense que ce n'est pas aux sociologues de décider quel nom il faut utiliser, et je pense qu'il faut demander aux acteurs par quel nom ils se définissent, et ensuite, revenir sur les termes.
J'aime bien l'idée que ce soit un échange, hein, puisqu'on a à la fois la chercheuse et puis le militant de terrain et homme politique.
Savoir, par quoi, quel terme on vous définit et vous définissez, ou est-ce que c'est quelque chose qui est important, de le fait que vous venez, vous soyez, est-ce que vous vous définissez comme issu d'immigration ou est-ce qu'on vous assigne à cette... Enfin voilà.
Alors, moi je me définis d'abord comme un militant dans un premier temps, parce que dans mon histoire, dans mon engagement, j'ai toujours œuvrer pour mon quartier, mais sans distinction ethnique, j'ai envie de dire. Moi, j'ai toujours j'ai été éduqué entre guillemets par des associations d'éducation populaire. Donc, moi, ces distinctions, j'aime pas trop la faire parce que j'ai l'impression qu'au bout de 4-5 générations, on sera toujours ici d'eux et on sera jamais reconnu comme les Français. Il y a des immigrés polonais qu'on assimile plus facilement. Et nous, on a l'impression que 10 générations après, on sera toujours ici d'eux. Et en plus, ça nous enferme des fois, moi en tant que militant associatif, même en tant que personnage politique, ça peut être enfermant de dire voilà, il y a un élu de l'immigration, donc qui va s'occuper que des problématiques des enfants d'immigrés. Alors que moi, mon engagement est beaucoup plus large. Et je pense qu'on doit être aujourd'hui capable d'assumer qu'aujourd'hui, on peut être français et s'appeler Mohamed ou Mamadou et fier de l'être. Hein. Moi, je suis fier d'être français et j'aimerais être reconnu comme tel, quoi. Même si je ne renie pas mes origines et mon histoire.
Et surtout, si on regarde, en fait, la majorité des Français à 2-3 générations sont issus de populations immigrées, finalement. Donc... C'est quand même hallucinant qu'il y ait encore, au bout de 3-4 générations, pour les populations émigrées, maghrébines, voilà, qui ne soient toujours pas reconnues en tant que Français, alors que finalement, ils sont peut-être plus Français que certains Français au regard de l'histoire.
Comment on nomme ?
Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a la question de la minorité visible, toutes ces questions. Alors, Sarkozy avait aussi utilisé le nom de musulman d'apparence. Voilà, toute la question de ce qu'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, blanc, c'est pas une couleur. On parle pas de... Les blancs, ils sont visibles, ils ont une couleur aussi. Mais blanc n'est pas une couleur, en fait. Le blanc n'est pas considéré comme quelque chose de visible, alors que c'est une couleur comme les autres. Mais c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être nommé, puisque c'est la majorité, en fait. C'est la couleur de blanc majoritaire, donc on ne la nomme pas. C'est ça qui est intéressant, hein. Comment on nomme le minoritaire et comment le majoritaire n'est pas nommé.
Alors comment on s'en sort?
Comment on s'en sort? Alors c'est vrai que c'est compliqué là de la manière dont vous me posez la question en disant comment on peut présenter des personnes, comment on s'en sort. C'est pas simple. Hein. Moi je pense qu'il faut assumer le fait de dire voilà, aller au bout, français. Je pense que les choses faut les faire naturellement. Quoi. On n'a pas besoin de se cacher derrière des. Il faut l'assumer, moi je l'assume en tous les cas.
Non, c'est pas le sens de la question. Le sens de la question, c'est de dire évidemment qu'on devrait arriver à ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nommer les choses parce que la chose n'existe pas. Mmh. Mais à partir du moment où on dit il y a quand même de la discrimination à l'embauche et autres, comment on nomme les choses?
Ah oui, non, là c'est différent. Dans ce cas-là,
je me suis mal exprimé.
Oui, faut savoir nommer les choses et appeler les choses. Si on parle de discrimination, il faut bien expliquer vers qui on discrimine. Donc là, on est, hélas, en tous les cas, dans mon esprit, on est quasiment obligé de nommer les gens, même si on ne devrait même pas parler de discrimination si tout allait bien.
Est-ce qu'en nommant, on renforce ?
C'est toute la question. Mmh.
Je ne sais jamais comment m'y prendre. Donc là,
la question qui a été posée notamment sur les statistiques ethniques. Est-ce qu'il faut compter les gens à partir de leur couleur de peau ? Alors on a dit attention, parce que ça renforce la discrimination. D'un autre côté, aux États-Unis, on fait des statistiques ethniques. A priori, la représentativité des minorités fonctionne plutôt mieux aux États-Unis. Ils ont quand même un président noir. Donc c'est pas, voilà. Mais bon, ça pose des questions, il faut en débattre.
Et je pense qu'il ne faut pas s'épargner de ce genre d'outils statistiques. Moi, je pense que là-dessus, il faut faire attention à ne pas se tromper de débat. Moi, je pense qu'il faut être capable à un moment de dire, voilà, il faut vraiment avoir ces outils-là qui nous permettront, je pense, de progresser. Et il faut les assumer aussi. Mm-hmm. Et ce n'est pas, au contraire, discriminant de vouloir travailler dans ce sens-là. Au contraire, si ça peut permettre d'apporter une plus-value et pouvoir travailler un peu plus sur ces questions-là, moi je pense qu'il faut pas hésiter à les faire. Et comme vous dites, on peut critiquer les Américains sur différents modèles, mais en termes de représentativité, je pense qu'ils ont quand même des leçons à nous donner. On le voit au plus haut niveau de leur État, ils ont quand même un président issu de l'immigration plutôt africaine. Et là, par contre, je crois qu'en France, on en est encore assez loin aujourd'hui, hein, même très loin.
Une femme à la tête aussi, en France, on en est loin encore.
Oui, déjà, parce que la discrimination, entre guillemets, elle n'est pas uniquement ethnique, elle est aussi sociale, elle est aussi féminine. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte.
C'est une prise de conscience, cette marche, avec un mouvement non violent, émanant de la société civile. Le monde politique s'en empare et viennent éclore un certain nombre de politiques de la ville. Votre avis là-dessus, sur ces politiques de la ville ?
Le constat, c'est entre la volonté initiale des politiques de la ville et la réalité, on peut quand même constater, il faut être lucide, qu'elles sont quand même, il y a quand même un constat d'échec. Hein. On se rend compte tant en termes d'éducation, de logement, d'emploi. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas mesuré vraiment la complexité et la difficulté dans laquelle étaient les populations de ces quartiers populaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment on a encore des marges de progression. Et je pense qu'on doit surtout, et c'est aussi malgré tout le message que j'ai envie de faire passer, même si les politiques ont une forte responsabilité, il faut aussi que les citoyens, et un peu comme on fait les marcheurs à la TEPOP, se prennent d'une certaine manière en charge, ou aussi puissent, même s'il faut faire attention quand on dit ça, parce que ça peut être interprété négativement, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait des forces motrices chez les citoyens. Il ne faut pas attendre tout du politique. À un moment, il faut aussi que les habitants prennent la main et puissent aussi être un peu maître, j'ai envie de dire, de leur destin, tout en attendant, malgré tout, bien sûr, après, il y a quand même des dispositifs de l'État et des fonds d'État. Ce n'est pas les habitants qui vont régler tous les problèmes, mais je pense qu'à un moment, au moins sur la prise en compte, je pense qu'eux-mêmes sont les plus experts du quotidien, de leur quotidien. Donc, je pense que c'est les deux qu'il faudra allier. Et aujourd'hui, moi je me réjouis quand je vois des mouvements un peu comme il y a eu en 83, qu'il y a eu aussi en 2005, qui n'ont pas duré. C'est dommage, on a parlé souvent d'assez le feu, mais je pense qu'il faut aller vers aussi ce genre d'initiative, parce qu'eux-mêmes seront même à mieux de défendre, j'ai envie de dire, leurs intérêts.
Justement, je trouve qu'à Nantes, il y a une effervescence associative assez importante. Rien que là, le fait que vous veniez à Radio Associative, qu'il y ait beaucoup de public, et ça dépend du politique aussi. J'imagine que les subventions, ça compte. Enfin, comment le politique aide les gens aussi à réfléchir, à s'engager. Moi, j'ai l'impression qu'à Nantes, ça fonctionne assez bien, quoi. Il y a d'autres villes où ça fonctionne beaucoup moins bien, quoi. Donc si on va à Nice ou à Marseille ou j'en sais rien, c'est beaucoup plus difficile, quoi.
Non, mais c'est vrai que même s'il ne faut pas se pavoiner de dire que tout va bien, il y a quand même beaucoup de problématiques malgré tout.
Adèle Momedja, doctorante en sociologie, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et Ali Rebou, ancien adjoint en charge de la vie associative, aujourd'hui adjoint au sport Ville de Nantes, sont avec la complicité du Centre interculturel de documentation Originante, les invités du magazine.
Non mais c'est vrai que même s'il faut pas se pavoiner de dire que tout va bien, il y a quand même beaucoup de problématiques malgré tout. Mais c'est vrai qu'en regardant un peu plus ce qui se fait à l'extérieur, et moi j'ai eu la chance d'aller à Marseille dernièrement faire un peu la visite des quartiers nord, je trouve qu'ici quand même, j'ai envie de dire, il fait un peu mieux vivre malgré tout. On a un contexte nantais qui est quand même assez particulier, on a des quartiers qui sont quand même dans la ville, qui sont reliés assez facilement au centre-ville, on a des transports en commun, même si on a toujours les mêmes problématiques qui sont liées à l'emploi, mais on a quand même des logements sociaux qui sont assez dignes malgré tout. Je trouve qu'il y a quand même eu une volonté politique, même si tout n'est pas parfait, parce que quand vous allez voir des gens qui sont en souffrance, en précarité, eux que le tram passe en bas de chez eux ou pas, c'est aussi comment on finit les fins de mois. Mais je pense que malgré tout, il y a eu une volonté politique pendant des années de faire en sorte que on prenne en compte toutes les populations, qu'elles soient du centre-ville ou des quartiers, avec une attention aussi particulière aux quartiers, parce que c'est aussi un enjeu majeur pour nous.
À mon avis, des problèmes des politiques de la ville, c'est d'avoir considéré que le principal problème de ces populations est d'être dans des ghettos, d'être enfermés. Et donc on a promu beaucoup l'idée de mixité, comme si les étrangers se mélangeaient plus avec les Français, tout irait mieux. Et du coup, on a oublié toute la question sociale, toute la question de la pauvreté, au fond. Est-ce que c'est pas ça la principale question? C'est pas l'égalité? Est-ce que ça suffit de se mélanger pour être, au contraire, il y a des sociologues qui ont bien montré que c'est pas parce que vous habitez avec quelqu'un qui est votre voisin mais qui est culturellement un peu plus éloigné que vous, ça va pas mieux se passer. Ça va peut-être au contraire d'ailleurs exacerber certains problèmes, certaines problématiques. Donc c'est, à mon avis, on s'est pas assez intéressé à l'action de l'égalité sociale.
Oui, je suis entièrement d'accord et c'est souvent la critique qu'on fait ici. Je prends le grand projet de Malakoff. C'est vrai que de l'extérieur, quand vous êtes vous habitez pas et vous passez, vous voyez des beaux bâtiments, mais je pense que ça suffit pas. Alors, en caricaturant, je peux dire que c'est pas uniquement en changeant les façades ou les boîtes aux lettres. Je pense qu'il y a tout un accompagnement social qu'il faut essayer de mettre aussi en avant. Moi, je l'ai vu sur Malakoff. Hein, il y a aujourd'hui, même si vous avez un logement d'une meilleure qualité, même si vous avez un environnement, un cadre de vie, si vous n'avez pas toute la dimension sociale, c'est-à-dire le lien social, la cohésion sociale entre les gens, si vous ne redonnez pas des solidarités entre eux, je pense que vous irez malgré tout à l'échec. Et cette dimension-là, il faut la conserver.
Merci à Adèle Momedja, doctorante en sociologie, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et merci à Ali Rebou, ancien adjoint en charge de la vie associative, aujourd'hui adjoint au sport Ville de Nantes, pour leur libre participation à ce magazine, enregistré avec la complicité de Géraldine Lamant, à l'occasion de la célébration, 30 ans après, de la marche pour l'égalité et contre le racisme, temps fort organisé en novembre 2013 par le Centre interculturel de documentation Originante. Yeah.
si todos os membros, ai, vamos lá, levanta a mão direita, exatamente, levanta o pé direito, isso, isso, levanta a mão esquerda, exatamente, levanta o pé esquerdo, isso, isso, é quase, todo mundo fica do lado e não tem os olhos para ver que não tem ninguém na pista, mas olha só, eu vou te falar, se você entende o português do Brasil, Brasil, você nunca vai ficar sozinho, só esperando um encontro sentimental.